I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la pangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez voir d'abord le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe de chroniqueurs en comité réduit. On fait dans l'émission intimiste ce soir. J'ai le plaisir de retrouver Julien.
Salut Clémence.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, notre chef d'orchestre à nous. Bonsoir Alain.
Salut.
Et on dit merci à Anthony pour le montage et le mixage. Et merci à Latex pour l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens, car oui, cet épisode de Sale Temps pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous êtes du côté de Paris, le samedi 28 mai, notez bien la date dans votre agenda. C'est la prochaine séance Capture, au programme Millennium Actress, un chef-d'œuvre de la Japanime signé Satoshi Kon. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site du Club de l'Étoile, clubdelétoile.fr.
Un chef-d'œuvre tout court, hein, t'as pas besoin de rajouter de la Japanime.
Mais c'est pour que les gens sachent que c'est.
Pour que les pauvres...
C'est du genre animation, c'est ça ? T'es du genre à dire... C'est du genre animation, c'est ça ?
Ah, Julien Dupuis, c'est suffisant.
Ah, je m'énervais là.
C'est pour que les pauvres auditeurs qui n'ont pas encore vu ce chef-d'œuvre...
Non, mais faut voir absolument, c'est un très très grand film.
Bref, venez le 28 mai. Cette semaine, nous sommes dans le futur. Un futur où les hommes ne meurent plus. Ils ont réussi à atteindre l'immortalité. Oui, mais problème, ils ne peuvent plus non plus procréer. Résultat, l'humanité décline lentement mais sûrement. Pendant ce temps-là, des clones mutants, autrefois esclaves des humains, vivent et se reproduisent dans un immense monde souterrain. Ce futur, c'est celui de Junkhead, film d'animation réalisé par le japonais Takahide Hori et dont on vous parle aujourd'hui. On va y revenir certainement en détail pendant l'émission. Junkhead a été réalisé en stop motion et c'est Takahide Hori tout seul qui a fabriqué les décors, sculpté les personnages, écrit le scénario, effectué les prises de vue, composé la musique, etc. Il lui aura fallu 4 ans pour créer une version courte de son film, sortie en 2013. 3 ans de plus pour finaliser la version longue avec une petite équipe. Au total, plus de 140 000 prises de vue. Pas mal pour un complet autodidacte. Le film sort en 2017 et devient un phénomène au Japon. Récompensé 3 fois, il remporte notamment le prix du meilleur long métrage d'animation au Fantasia Film Festival l'année de sa sortie et la Cigogne d'or du film d'animation international au Festival européen du film fantastique de Strasbourg en 2021. En France, Junkhead sort en salle ce mercredi 18 mai, mais nous on l'a déjà vu, alors forcément je dois vous demander, c'est quoi votre météo ? Stéphane ?
Je peux pas voir parce que c'est bétonné en fait, tu vois, tout se passe en souterrain, donc j'arrive pas à voir la météo, c'est étonnant quoi.
Pas mal, bien joué. Julien ?
Moi j'aimerais bien qu'il fasse beau, il fait beau de temps en temps, mais c'est quand même vraiment couvert quoi.
Temps très couvert. Bon. Vous allez nous dire tout ça en détail tout de suite. Alors Stéphane, tu veux commencer ?
Non, j'ai envie que Julien il commence.
Renvoyez-vous la patate chaude.
Allez, je commence. Alors moi, je suis emmerdé en fait quand je suis embêté, pardon, quand je parle d'un film comme ça, parce que j'ai beaucoup râlé en fait sur tous les critiques qui parlent de films sans prendre en considération la conception du film. C'est-à-dire que je pense que c'est le béaba en fait quand tu prends la parole, on va dire publiquement, pour parler d'un film quel qu'il soit, bah de savoir un peu dans quelles conditions il a été fait, et puis surtout ça subodore aussi de connaître un tout petit peu comment tu fais un film en fait, hein, comment ça se passe, à quoi servent les différents postes, comment tu obtiens une belle image ou pas, etc., etc., quoi. Donc, mais là, je trouve que cette approche-là, pour moi, là, ça fait partie des quatre films où je ne peux pas complètement l'appliquer. C'est-à-dire que j'ai envie, en fait, en parlant de ce film, de faire abstraction des conditions dans lesquelles il a été fait. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles a été conçu Junkhead sont tellement extraordinaires, font preuve d'une telle pugnacité de son auteur, d'un mec qui est tellement habité, finalement, parce qu'il faut être habité par ce qu'on a envie de raconter, dans ce qu'on a envie de montrer pour être avoir à ce point-là ce niveau d'abnégation, de pugnacité en fait dans la conception du film. Donc ça je trouve, et c'est un peu le cas en fait dans ce type de film, parce que c'est pas un exemple unique, hein, Junkhead, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard, mais je trouve que ça tend en fait à effacer tout le reste. C'est-à-dire que tu dis c'est un film extraordinaire parce qu'il a été conçu comme ça et parce qu'il est le produit en fait de ces qualités rares de ce mec qui, comme tu l'as dit, en plus est un autodidacte, même si je crois qu'il est décorateur d'intérieur à la base.
Il a travaillé pour Disney notamment.
C'est ça, ouais.
Il a fait les décors de Disneyland.
En fait, il a pas fait les décors. Je crois qu'il a fait la patine de certains murs, trucs comme ça. Ce qui se sent, hein, d'ailleurs, il y a un vrai professionnalisme là-dessus. Mais bon, bref, du coup, t'es un peu embêté parce que tu te dis, moi, je vais pas arriver derrière mon micro comme un con, tu vois, en 5 minutes, en faisant la fine bouche devant ce qui est l'œuvre d'une vie, enfin en tout cas si ce n'est d'une vie, en tout cas d'une grosse portion de vie de ce gars-là. C'est quand même 7 ans du coup, hein, de travail, comme tu l'as dit, quasi seul. Bon, il a eu une équipe à la fin, mais ça reste quand même quasi seul. Et le générique de fin a ce titre assez rigolo parce qu'il y a son nom qui est répété tout le temps. Je crois qu'il fait la voix de quasi tous les personnages, si ce n'est tous les personnages, enfin bref. Et en même temps, je trouve que c'est pas lui faire honneur que de lui réserver entre guillemets un traitement de faveur. C'est-à-dire qu'il faut que je le voie aussi, que j'apprenne le film pour ce qu'il est. Et là, je trouve que c'est pas terrible. Et je trouve en plus que les défauts qu'il a sont liés en fait à sa conception aussi un peu. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'impression de voir un film d'autiste. C'est-à-dire que oui, il y a énormément de travail, il y a des obsessions, il y a des créations, il y a des belles idées en plus de design. Certains personnages sont vraiment réussis et tout. Mais moi, je suis resté complètement à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai vu cet objet où je me suis dit c'est iconoclaste, c'est inhabituel. C'est parfois assez joli en fait, mais par contre, moi j'ai ressenti aucune émotion, aucune implication. Je trouve que tout ça est assez fumeux. Je trouve que ça tire un peu à la ligne aussi de temps en temps. Et au final, j'en suis sorti avec pas grand chose, quoi. Donc je dis tout ça avec encore une fois vraiment une espèce de, ça me dérange en fait de le dire. C'est pas juste de le dire, je trouve, sur ce film-là, quoi. Mais je trouve que c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'il y a un autre film un peu miroir qui est sorti en même temps, qui est le Mad God de Phil Tippett. Phil Tippett, c'est un grand nom des effets spéciaux, qui vient aussi de l'image par image. Hein. Enfin, il vient aussi. Lui, il a travaillé en tant que vraiment artisan des effets spéciaux image par image, un grand, grand animateur de talent, un mec absolument formidable. Et il a aussi conçu un film, un long métrage, un peu dans son coin. Bon, lui, il avait une structure un peu plus professionnelle. Déjà, lui, c'est un pro. Et puis, en plus, il l'a fait à l'intérieur de sa société d'effets spéciaux avec des stagiaires qui venaient pour l'aider ou l'épauler, etc. Mais en fait, Mad God, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que t'as l'effet de sidération devant le monde qui t'est présenté au début. Parce que, en plus, moi, je trouve que t'es pas forcément complètement plongé de prime abord. Donc, tu dis, waouh, il a fait tout ça, il y a plein de trucs. Et puis, au bout d'un moment, Mad God, c'est encore plus flagrant d'ailleurs là-dessus, ça se ralentit, ça rame, et puis tu te dis mais ça tourne un peu à vide, ou en tout cas ce que ça me raconte, bah c'est pas super passionnant, c'est pas super intéressant. Donc voilà, alors, je suis peut-être très dur, peut-être que parce que c'est vrai que le film a un petit statut culte. T'as dit tout à l'heure que ça avait été une, alors c'était un petit phénomène au Japon, hein, c'est pas non plus un truc dingue, mais c'est vrai que bon, le film est sorti dans un circuit de salles extrêmement restreint. Il y a eu un excellent bouche à oreille et je crois qu'il a fini à pas loin de 100 000 entrées, ce qui pour le Japon est pas anodin, surtout pour un film comme ça. Donc lui, il est parti, a priori c'est une trilogie, hein. Enfin,
il est parti pour faire une trilogie.
Ouais, je lui souhaite, hein, je lui souhaite tout bonheur du monde, moi, à ce film. Et c'est pour ça que je suis un peu embarrassé, mais forcé de reconnaître que moi, il y a un autre truc, si tu veux, c'est que je pense que ce serait pas lui faire honneur non plus de lui réserver un traitement de faveur et juste de le résumer à ses conditions de fabrication. C'est-à-dire, il a réussi à faire un film. Donc, eh ben, il doit se mesurer aux autres films, quoi. Et là, voilà, le fait que j'ai l'impression qu'il se pose aucune question sur la narration, sur quel va être ton point d'accroche, en fait, en tant que spectateur, enfin, voilà, les béabas, en fait, de la narration. Donc, je suis devant une espèce d'objet d'art qui est fascinant, mais ça s'évanouit vite. C'est long, un long métrage. Hein.
Alors, ce qu'il explique justement en interview, hein, c'est que effectivement, il s'est basé d'abord sur l'univers visuel qu'il a construit. Il s'est lancé dans le storyboard sans véritable scénario, avec juste quelques dialogues, et le récit s'organisait autour des décors et des personnages.
Ça sent, hein, ça sent beaucoup. Et puis aussi, il a conçu aussi tout le décor souterrain, je crois, avec juste des parois qui étaient plus ou moins amovibles pour pouvoir avoir une espèce de décor polyvalent et tout. Ça sent aussi un peu. Alors, tu peux te dire. Oui, mais c'est travaillé, ça a un sens, etc. Oui, d'accord, je pourrais sortir ça, mais moi, la résultante en tant que spectateur, bah, c'est que j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, que c'est un peu redondant et tout. Il reste quand même des belles choses, des beaux personnages et tout. Moi, il y a un film, en fait, comme ça, qui a été un peu conçu dans des circonstances qui peuvent être approchantes, qui est un film anglais qui s'appelle Les secrètes aventures de Tom Pouce, qui était sorti en 1993, qui avait une diffusion à la télé française sur Arte dans les années 90, avec il y a une partie de gens qui allaient rejoindre Hardman plus tard qui avaient travaillé là-dessus. Bon, alors, il y a de la pixelisation, donc ça ressemble un peu plus à Mad God, mais je trouve que pour le coup c'était un film qui se tenait beaucoup plus, qui était beaucoup plus consistant en fait dans ce qu'il racontait et aussi dans l'univers en fait qu'il dépeignait, quoi, où tu comprenais vraiment comment ça se passait et tout, quoi. Là où c'est pas, je trouve aussi que c'est pas toujours évident en fait ce qu'il a voulu faire. Donc voilà, je conseillerais plus les aventures de Tom Dove, de Tom Pouce, les aventures secrètes de Tom Pouce, pardon, qui est un film un peu tombé dans l'oubli mais qui a son petit statut culte, hein, quand même. Je pense qu'il y a des auditeurs qui ont dû le voir et qui doivent aimer. Voilà. Je me sens sale. Donc je pars prendre une douche.
Une dernière chose sur la technique, je ne sais pas si tu le savais, que le film, contrairement à beaucoup de films d'animation qui sont en 12 images par seconde, il a tourné en 24 images par seconde.
Oui, pour les mouvements de caméra, je crois, notamment.
Ouais. Il voulait qu'il y ait un vrai aspect live action.
Oui, oui, bah c'est un. Voilà, le gars, il est allé jusqu'au bout parce que c'est encore plus de boulot. Alors après, non, c'est pas vrai, hein, que tous les films d'animation. C'est-à-dire qu'au Japon.
Je dis la plupart.
Non, au Japon, le cinéma d'animation traditionnel, enfin, disons en 2D avec des cellulos et tout, oui, c'est souvent du 12 images par seconde, parfois même un peu moins et tout. L'image par image, par contre, non, c'est souvent du 24. Hein. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à des films d'animation qui ont été tournés à 12, je sais pas. D'animation en volume, hein, j'entends. Hein. Donc, non, mais je peux pas dire autre chose que le gars, ce qu'il a fait, ça reste exceptionnel. D'avoir réussi à faire ça, ça reste exceptionnel. Le film, pour moi, hein, c'est une autre histoire. Moi, je sais que je suis resté à la porte à l'extérieur. J'attendais un peu le film, hein, en plus. Hein. Il avait une petite réputation et tout, mais pas pour moi.
Pas pour toi. Et toi, Stéphane, alors dans
Moi, j'ai bien
béton...
aimé. Moi, j'ai bien aimé, mais je suis d'accord avec Julien sur un point spécifique qui est celui de... Qu'une œuvre est effectivement constitutive de la façon dont elle a été conçue et dans l'état d'esprit, que ce soit dans l'état d'esprit aussi, pas forcément uniquement la fabrication, quoi, à proprement parler, quoi. Et je pense que on va dire que effectivement c'est un accomplissement total d'avoir réussi à faire ça. Maintenant, comme il est tout seul dans son coin à faire son truc, il a fait à peu près ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire on peut blâmer personne d'autre. Et du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui fondamentalement est un réalisateur parce qu'il l'a fait, mais pas tout à fait non plus. c'est-à-dire à la fin, puisqu'en fait, il y a beaucoup de questions de narration qui restent en suspens. Moi, ce que j'aime bien avec le film, c'est à la limite, justement, parce qu'il est, il est constitué de cette manière-là, il a un côté foutraque qui me plaît bien, moi. C'est-à-dire qu'en gros, je ne dirais pas que c'est une œuvre arty, en fait, comme le disait Julien. C'est-à-dire que vraiment, je pense que son comment dire, le background du gars, je ne sais pas, hein, mais en fait, en tout cas, quand tu regardes certains éléments, tu vois qu'en fait, il a tu vois qu'il a grandi avec un certain type de cinéma des années 80, en fait. Et je pense que la volonté de faire, un film en stop motion comme ça, ça vient aussi de là. Alors, le problème, en fait, c'est que oui, émotionnellement, on peut complètement rester en dehors du truc, hein. Moi, je vais pas dire que j'ai été transporté par le film, quoi. Je pense que c'est surtout dû au fait que, bah, comme le film a été écrit un peu à la volée au fur et à mesure, il y a énormément de concepts, en fait, de SF qui sont un peu balancés les uns contre les autres et qui ont tendance à s'annuler. Tu vois que le mec, il a clairement des référencements à Alien ou Aliens, tu vois qu'il a clairement, des référencements à, comment dire, Blade Runner, Ghost in the Shell, même Mad Max, j'ai envie de dire, ce genre de choses. Donc en fait, en gros, il les fout pêle-mêle là-dedans. C'est un gros bordel, hein. Mais mine de rien, je trouve qu'il arrive à maintenir une espèce de quelque chose d'un peu, pas dans la narration, mais en tout cas dans le style, en fait, du film, quelque chose d'assez homogène, ce qui est assez étonnant, quoi. Et du coup, moi, je serais un petit peu moins dur, en fait, que Julien là-dessus, quoi. Peut-être effectivement que j'aurais tendance à, comment dire, lui accorder beaucoup plus que Julien le fait qu'il ait réussi à faire tout ça dans son coin, mais je pense que c'est aussi un des défauts du film, c'est-à-dire qu'en gros qu'il n'y ait pas de point de vue extérieur, de recul sur, c'est-à-dire que le fait de te passer autant de temps à faire ça, enfin se donner autant de mal en fait à faire ça, tu te dis bah ça aurait été bien d'aller chercher un vrai scénariste, ou ça aurait été bien d'aller chercher quelqu'un qui fait un vrai directeur de la photo par exemple, je veux dire des choses, même si j'imagine bien que en fait avoir un directeur de la photo sur 7 ans, ça demande le même degré de, comment dire, d'implication et de ce qui est probablement en fait défierait le propre même de la création du film, quoi, de ce film en particulier, quoi. Mais voilà, parce que en fait, disons que à part des concepts en fait de plans, à part des trucs comme ça, quelques idées en fait comme ça qui répètent de temps en temps d'ailleurs en gros, c'est pas un film qui est totalement pensé visuellement. Enfin, je trouve, c'est-à-dire qu'il est au-delà même de la stop motion, je sais pas comment dire. Le truc, l'avantage en fait de la stop motion, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est que en fait t'es obligé de te poser les questions de ce que tu dois faire comme animation à un moment donné. C'est-à-dire que ton personnage, et tu peux pas vraiment, en fait dans la stop motion, j'ai l'impression, et peut-être Julien va me contredire, que tu peux pas vraiment te permettre d'avoir du gras parce qu'il faut que tu utilises tout ce que tu peux, enfin avoir quand tu fais ton truc, quoi, tu vois. Par contre, c'est dans les scènes en fait qu'il y a du gras. C'est-à-dire, il y a deux scènes qui se répètent à 10 minutes d'intervalle. Et tout ça, en fait, c'est pareil, ça aurait mérité un monteur qui arrive, qui lui dit, bon, ça, on va couper, mon gars. Ça sert à rien, tu l'as déjà fait là, la scène, elle est faite, elle est cool, tu vois.
Le film,
il est
1h40. Hein.
1h40, ouais, mais...
C'est long, hein.
C'est long pour un film d'animation, parce que, justement, le principe de l'animation, s'il y a bien, on va dire, quelque chose de distinctif dans la narration, de la mise en scène, c'est qu'en fait, on peut dire des choses beaucoup plus rapidement, visuellement, et les faire comprendre, en fait, c'est un vrai langage, en fait, qui va beaucoup plus vite que je pense que tu peux le faire au cinéma aussi, évidemment, mais en général, en fait, l'émotion est perce beaucoup plus facilement, quoi. Enfin, non, je vais pas dire ça comme ça. Elle peut percer beaucoup plus facilement, en fait, si tu te donnes le truc qu'avec le cinéma, quoi. Le cinéma traditionnel. Mais là, le problème, en fait, de ça, c'est surtout qu'en gros, on se retrouve avec, des répétitions de scènes, des trucs, etc. Alors, il y a plein de moments cool, il y a plein de trucs, mais par exemple, je sais pas vous, mais il m'a fallu, parce que ça ressemble à un film à sketch par moment, en fait, on va dire, même si c'est pas du tout le cas, hein, c'est une histoire qui de A à Z, en fait, qui part avec le même personnage, hein. Bah, moi, justement, au moment où, quand le personnage change physiquement d'allure, j'avais pas compris que c'était le même perso. Il m'a fallu 5 minutes, 10 minutes avant de comprendre. Et ça serait justement passé avec une idée de mise en scène, avec quelque chose, en fait, visuellement, puisque c'est un film visuel, ça serait passé beaucoup plus simplement si quelqu'un, tout simplement, lui avait peut-être fait un retour, en fait, c'est-à-dire s'il avait testé son truc, ce qu'il avait déjà commencé à tourner, en fait, auprès d'un certain public, même des amis proches, ou j'en sais rien. Voilà, donc je sais pas quelle est la méthodologie exacte qu'il a eue, mais toujours est-il que c'est, en fait, les réflexions que tu te fais en sortant du film, c'est-à-dire tu te dis, bon, voilà, donc oui, le film est méritant. Oui, moi je trouve qu'il a, j'ai beaucoup plus de sympathie pour le film en soi que Julien, parce que voilà, je trouve ça beaucoup plus, Ben voilà, j'ai trouvé mon compte, on va dire, sur plein de trucs. Moi, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, hein, clairement, quoi. Mais après, c'est sûr que ce n'est pas l'œuvre d'un petit génie, tu vois, qui a fait tout dans son coin et qui d'un seul coup te livre quelque chose d'absolument formidable. C'est d'une manière ou d'une autre un film expérimental à hauteur d'un seul homme, c'est-à-dire que lui-même s'est expérimenté sa propre capacité à faire ça, on va dire. C'est complètement foutraque, c'est vraiment, je pense, on rentre dans l'esprit d'un gars, quoi. Et voilà, enfin, c'est il faut le savoir, il faut avoir conscience de tout ça avant de rentrer dans la salle, quoi.
Ce que je voulais dire, je voulais préciser pour rebondir sur un truc que Steph il disait là sur le quand je j'apparentais le film à une œuvre d'art, en l'occurrence peut-être un art un peu abscon moderne, c'est pas du tout dans le contenu du film. Par exemple, il y a un truc dans le film qui est totalement respectable et qui est d'ailleurs assez sympa, c'est que le film a beaucoup d'humour et de l'humour un peu grossier, voire grotesque, quoi. C'est-à-dire, mais comme on en retrouve dans certains mangas, quoi, tu vois. Et ça, c'est plutôt sympa, en fait, parce que tu te dis, le gars n'est pas dans une posture d'auteur, en fait, et de grand artiste, tu vois, des murges, et voilà. Mais par contre, là où je l'apparente donc à ses œuvres d'art, c'est que mais ça vaut pour toute forme d'art, hein, pour le cinéma, mais pour d'autres, c'est que moi j'ai du mal avec les œuvres d'art qui ne se posent pas la question de la réception de l'œuvre. C'est-à-dire que pour moi, l'art, mais c'est ma définition d'art, c'est mon appréciation, et j'accepte totalement et j'assume totalement qu'elle soit extrêmement réductrice, hein, mais si tu cherches pas en fait à communiquer finalement ce que tu es en train de sortir. En règle générale, à part quelques exceptions, il y en a toujours, hein, mais en général, ça m'intéresse pas trop, en fait. Et là, c'est là, en fait, où je le rapproche de ça. C'est-à-dire que moi, je pense que il y a le manque de formation, mais il y a aussi le truc que ça a dû être tellement dur à faire ce film pour lui que finalement, il s'est pas posé à certains moments les bonnes questions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'au bout d'un moment, tu travailles énormément sur un truc que le travail que tu es en train d'effectuer est le bon travail. Parfois, il faut sacrifier ce travail, il faut bosser moins sur certains trucs, etc. C'est plus compliqué que ça. Et Stéphane parlait des histoires des scènes un peu qui se répètent, comme ça et tout. Mais c'est pareil, en fait, tu as l'impression que c'était tellement dur qu'il ne pouvait pas avoir à l'idée, justement, de monter son film, de faire des sacrifices. Or, il y a plein de grands films, en fait, dont la réussite est due à un grand sens du sacrifice. Que ce soit une grande scène coupée, ou alors un changement d'écriture, changement de comédien, ou un truc comme ça. Et sur les films comme ça, qui sont faits totalement en autarcie par un seul gars et tout, bah souvent, tu te heurtes à ça. Tu te heurtes à cette absence, en fait, de questionnement. Donc, sans aller évidemment chez des marveleries qui veulent absolument aplanir tout parce qu'ils veulent justement s'adresser au plus grand nombre, moi je demande pas ça du tout. Mais au bout d'un moment, la question de savoir comment tu vas communiquer ce que tu es en train de créer aux autres me semble primordiale. Enfin, en tout cas, encore une fois, dans la façon que j'ai d'aimer en fait l'art en général, le cinéma en particulier.
Après, c'est
et peut-être... là, j'ai l'impression qu'il s'est pas trop posé finalement cette question-là, en tout cas jamais. Quoi.
Bah, je sais pas si le fait qu'il soit posé la question ou plutôt qu'il s'est dit que ça allait vraiment être distribué finalement. Quand tu fais tout ça dans ton coin.
À partir des 4 ans, des premières 4 années, où là c'était un cours, je crois qu'il avait été déjà présenté à Annecy et tout. Si, puisqu'il est rentré dans un circuit beaucoup plus pro, on va dire, entre guillemets, et que le film était destiné à sortir tôt ou tard. Donc, si, bien sûr, en fait, ça c'est. Et effectivement, peut-être qu'au début, non. Mais tu vois, la question se pose au bout d'un moment de pourquoi tu fais ça?
Oui.
Et le truc, c'est que s'il fait ça comme un hobby chez lui et tout, bon bah très bien, mais je pense que c'est plus que ça, en fait.
Ce qu'il dit en interview, c'est que à 40 ans il a eu envie de se lancer un nouveau défi artistique. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il a appris le stop motion sur internet et dans des livres, et effectivement peut-être que finalement le projet a pris une ampleur plus grande que ce qu'il avait prévu au départ.
Mais je pense que c'est un film qui est quand même habité, hein. On a suffisamment parlé ici de films je ressortais toujours mon truc du film mort et tout, quoi, des Uncharted, des trucs comme ça, pour justement saluer un film qui est habité pleinement. C'est indéniable, ça. Mais est-ce que pour autant, t'as une porte d'entrée, en fait, là-dedans? Ça, pour moi, la question reste posée. J'ai pas détesté le film, hein, pas du tout. Hein. J'ai l'impression que je donne vraiment cette impression-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué, en fait, pour moi, parce que, enfin voilà, il y a, c'est. Bon, bref, je sais pas, j'ai l'impression que je vais être redondant.
Non, mais moi je comprends un peu ce que tu dis, mais c'est vrai que voilà, j'allais le souligner avant que tu le fasses. C'est vrai qu'on a parlé de suffisamment de films de merde en fait pour pointer quand même du doigt que malgré tous ses défauts, un film comme Junkhead mérite quand même d'être vu, quoi. C'est-à-dire que vraiment, en tout cas pour notre public, ceux qui nous écoutent en
et
fait.
Et puis ça vous parlera général, peut-être. Hein.
Voilà. Et puis moi je pense que à la limite, en tout cas ma porte d'entrée pour ce genre de film, au-delà de la stop motion, hein, puisque c'est toujours un plaisir en fait, on va dire de regarder ça comme ça, parce que c'est aujourd'hui à part des films spécifiques, effectivement comme le MacGod ou ce genre de choses, c'est quelque chose n'existe plus en fait dans le cinéma, qui est quasiment beaucoup moins utilisé par rapport à une certaine époque, quoi.
Si, il y a plus de longs métrages en stop-mo.
Des longs métrages à proprement parler, mais moi je parlais des effets spéciaux qui utilisaient ça. Justement, tu parlais de Phil Tippett et tout ça. Donc voilà, c'est un plaisir peut-être fétichiste, mais c'est un plaisir en tout cas si tu veux de voir ça, quoi. Et puis moi, ma porte d'entrée, c'est un certain référencement, encore une fois, d'un cinéma entre guillemets. Métal hurlant en fait, c'est-à-dire de et là je parle vraiment de du magazine, quoi, que dont sont très friands même au Japon notamment, hein, voilà, donc en fait cette espèce de fourre-tout de croisement Mad Max, Ghost in the Shell, tu vois, je sais pas, Akira, enfin tous ces trucs là en fait, si tu veux, qui se réclament de ça, où t'as en fait un espèce de pendant de ça en fait en stop motion, ce qui est plutôt sympa. Alors, encore une fois, avec plein de d'embûches, hein, plein d'erreurs, plein de moments où le film se casse la gueule, hein, voilà, mais à la fin moi j'en suis sorti relativement satisfait en fait, c'est-à-dire à partir du moment où t'attends pas ce que ce soit Kubrick, en gros le mec dès du premier coup, et là je dis pas ça, enfin tu vois, je veux dire qu'on te vende pas le côté du grand mec, du grand génie tout seul dans son coin qui a fait son film, si tu veux, c'est ça que j'entends par là. À partir du moment où tu sais que c'est pas ça le film, bah ouais, il y a du plaisir à prendre, vraiment.
Et puis il y a une, c'est pour sortir avec un point plus positif, c'est que il y a de toute façon, c'est vrai, un truc génial avec l'image par image, c'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que t'as le côté joué qui s'anime tout le temps, en fait, même sur les Leica, enfin un peu moins sur les Leica, c'est tellement parfait, beaucoup trop même, mais il y a un truc comme ça en fait, de voir ces petites marionnettes et tout. Et il y a un autre truc qui, je pense, est inhérent aussi à la technique employée, qui est c'est en soi une grande célébration du cinéma. C'est-à-dire que tout à coup, tu vois un truc qui bouge parce que c'est une succession d'images fixes. Et qu'entre ces images fixes, en plus, il y a la patte de l'humain qui est intervenue, mais tu la vois pas, mais tu la sens quand même. C'est un peu abstrait, peut-être, ce que je raconte.
Non, c'est une forme de magie, un peu.
Mais oui, en fait, il y a un truc, je pense, qui fait que dans le côté saccadé, par exemple, de l'image par image, et ça, pour le coup, et c'est moi qui dis ça alors que je suis un grand défenseur de l'image de synthèse et tout, mais par contre, ça, c'est un truc que tu remplaces pas, en fait. Ça se remplace pas, en fait, ça. Et c'est vrai que de toute façon, t'as ça qui reste. C'est-à-dire que c'est vrai que t'admires les maquettes, t'admires les trucs, et puis il y a ce truc-là qui est, de toute façon, que tu obtiens, en fait, même si tu fais un cours d'animation pourri avec tes enfants, avec des Legos.
Et ce qu'il expliquait d'ailleurs, qui est amusant, c'est que pour animer ses personnages, en fait, il se filmait d'abord lui faire les gestes, et ensuite il les reproduisait avec ses persos.
Ce qui est assez courant aussi, hein, ce qui se fait souvent. Je suis désolé, c'est pourquoi je dis ça. J'avais dû dire ça.
Je pensais arriver.
T'as tout saboté, Julien. Non, mais faut préciser que c'est un film aussi qui a un combat contre un espèce de David contre Goliath. Tu vois, il y a des scènes avec des créatures protéiformes, tu vois, gigantesques. T'as tout un tas de trucs comme ça. Donc en fait, il y a plein d'imageries. Voilà, il y a toute une imagerie en fait, si tu veux, qui nous parle. Donc faut le préciser pour que les gens aient conscience de ce qu'est le film à proprement parler, parce que c'est vrai qu'on a parlé entre guillemets de la fabrication, des défauts pas mal, mais il y a aussi tout un univers en fait qui nous parle, qui nous tutoie, oui, en vrai, hein, donc
Alain, il faut que tu m'effaces, et puis voilà, on va juste garder ça.
Non, mais c'est ce qui fait la force de ce film, cet univers finalement
qui a une certaine cohérence, je dirais, mais qui malgré tout en fait part un peu dans tous les sens quand même, c'est-à-dire que en gros c'est comme il y a une scène en fait qui est un flashback en fait, en gros, hein, puisque on voit partir comment dire, cet humain qui va arriver dans les souterrains, quoi. Et c'est pareil, il faut le savoir que c'est un flashback, là, la façon dont c'est amené. C'est au bout d'un moment, tu fais, ah, mais en fait, c'est lui. D'accord. Et c'est pas très, très clair. Parce que ça aussi, c'est un autre truc, c'est que, alors, s'il y a bien un truc sur lequel t'as pas de point de référence, c'est le langage, en fait. Dans le film, il y a un langage, mais il est complètement abstrait, quoi. Donc, en fait, c'est pareil. Donc, en gros, si tu veux, tu te retrouves même pour un spectateur japonais, en fait, c'est pas du japonais. Donc, oui. En gros, c'est vraiment c'est un langage à proprement. Ouais, c'est ça, c'est du langage à proprement parler. Donc là, c'est pareil, en fait, encore une fois, tu lis les sous-titres, hein. C'est sous-titré, en l'occurrence, chez nous, c'est sous-titré français, et c'est censé être intelligible, quoi, tu vois. Mais pour autant, si tu veux, ça participe encore une fois d'une création d'univers, si tu veux. À soi, quoi, tu vois, et du coup,
cinéma pallie à ça, quoi.
Voilà, et voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'embûches, il se met beaucoup, beaucoup d'embûches, si tu veux, pour arriver, en fait, à ses fins. Donc voilà, donc c'est vrai que, bon, encore une fois, il est très méritant. Mais c'est vrai que voilà, ce truc, en fait, c'est qu'il a les mêmes références que nous, et c'est moi, ma porte d'entrée, elle est là, surtout, c'est ça ce que je voulais dire, quoi.
Très bien. Alors, si vous voulez vous faire votre propre avis, Junkhead est sorti en salle ce 18 mai. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Junkhead et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saletempourlerépondeur@gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de The Northman, film d'époque épique avec des vikings, de la violence et de la trahison. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite.
Bonjour la team Capture, c'est Nathan. Je suis allé voir The Northman et j'ai apprécié le film. J'ai vraiment beaucoup apprécié, même moi en ce qui concerne le casting, j'ai pas vraiment eu de problème particulier. Et je trouve le film magnifique. Après, comme l'a dit Stéphane, je peux comprendre que si on n'arrive pas à rentrer dedans, ça peut être compliqué. Du coup, on est dans une situation de tout ou rien, je pense. Et si on rentre dedans, moi je vous le dis que il y a aucune chance que vous n'appréciez pas.
Non mais 90 patates, Robert. 90 patates. Je pensais que le plan séquence au début du film de l'attaque du village, c'était un mini hors-d'œuvre qui allait annoncer un film de guerre de vikings. D'une épicness rarement atteinte qui allait puer le sang, la boue, le froid, un truc viscéral. Et non, deux tiers de film au milieu d'une plaine islandaise, avec trois cahutes et 10 villageois, sur fond d'une histoire de vengeance shakespearienne dont je me cogne sincèrement. Non, mais 90 patates.
Alors, The Northman. J'ai été déçu, mais... sur la longueur, parce que j'ai vraiment été happé par la première demi-heure qui rentre dans le vif du sujet direct avec plein d'idées de mise en scène, puis la fameuse scène dans les sous-sols avec le Willem Dafoe méconnaissable. Et après la première demi-heure, j'ai trouvé vraiment le film assez rêche, assez monolithique et impénétrable, et je me suis senti... extérieur, comme disait Stéphane Moïsakis. Après, il y a quelques plans ici et là, la musique vraiment pas mal et tout, mais je pense que on s'en souviendra pas trop de ce film. Voilà.
Alors, The Northman, bon, déjà, moi, la bande-annonce, j'étais hyper hypé, et comme j'aime le cinéma de Robert Edgers, je pensais que je savais à peu près où je mettais les pieds. En premier lieu, j'ai beaucoup aimé la manière dont le surnaturel et le fantastique ont été traités. J'ai trouvé aussi les mouvements des caméras très intéressants, avec des grands travelling, des longs plans séquences, notamment pendant les scènes de combat. Et là aussi, ça ancre cette histoire dans un certain réalisme. Un autre point positif, selon moi, c'est la musique. Parfois épique, tantôt lancinante, mais toujours efficace. Elle m'a d'ailleurs un peu fait penser à celle du jeu The Witcher 3. Et même si le rythme du film est parfois un petit peu discutable, on s'embarque dans cette histoire de vengeance, sanglante oui, mais là aussi, qui ne fait pas dans la démesure. Pour moi, c'est donc un grand oui.
Alors, j'ai vu The Northman hier soir, et j'avais beaucoup d'attentes pour ce film à 90 millions, qui n'est pas une franchise, qui n'est pas un reboot, qui n'est pas une suite. Mais malheureusement, le film est décevant à plusieurs niveaux. Il y a du courage de la part du réalisateur, et il y a une vraie quête de l'authenticité, Mais ça, l'authenticité en soi, c'est pas intéressant à regarder. Et si je pouvais le résumer à quelqu'un qui l'a pas vu, je dirais bah c'est Le Roi Lion, mais en beaucoup moins drôle. Je sais que Le Roi Lion est inspiré de Hamlet, de Shakespeare, qui lui-même a utilisé cette légende comme une source, mais il se semble que Eggers ne s'en rend pas compte, enfin n'a jamais pensé à un moment qu'il est en train de faire ce film pour un public du 21e siècle qui a déjà vu ça, et c'est cette histoire traduite dans d'autres formes et qu'il faudrait peut-être l'adapter ou la rendre plus intéressante. Et j'avais vraiment du mal avec le personnage principal parce que l'acteur principal n'a pas le charisme pour porter ce film. Donc il est clairement traumatisé par ce qui est arrivé dans son enfance, ce qui est logique. Il parle pas beaucoup, il est pas très communicatif. Mais pour réussir ce coup-là, il faut vraiment avoir des acteurs, un comédien qui a du charisme. Et c'est pas le cas.
Mon avis pour The Northman, le film m'a rappelé pour ses décors le récent Green Knight, que j'avais bien aimé. Pour l'histoire, alors, ne connaissant que les grandes lignes d'Hamlet de Shakespeare et n'ayant vu pour seule adaptation uniquement Le Roi Lion, je me suis laissé facilement porter par le récit qui, avec la manière avec laquelle il est traité dans le film, s'apprécie, je trouve, comme un conte ou un récit philosophique traitant de, je dirais, nos croyances, notre rapport à nos émotions.
Je sors de The Northman tout à l'heure, là, et bien, je suis Team Stéphane, pour le coup. Ça m'a laissé un peu de marbre, pourtant, j'avais envie, l'envie était là, mais... sur le moment c'était pas trop mal, mais en ressortant non, j'ai quand même une sensation de pas très bien dans qui me reste.
The Northman, un film franchement vraiment bien, un film vraiment qui en fout plein la gueule, une proposition cinématographique de haut vol. Filmé à une seule caméra en 35 mm, le réalisateur a réussi à imposer sa vision. C'était pas facile tous les jours pour lui. Après, ok, on peut dire il est un peu hautain, il se la pète un peu. Mais franchement, vu le résultat, ça en valait la peine. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça. Franchement, c'est du jamais vu. The Northman. Stéphane, je te conseille d'aller le revoir. The Northman, sur vos écrans. Allez-y.
Salle temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
Et puis merci Alain à la technique.
Merci.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si vous voulez nous encourager, nous soutenir et contribuer à notre indépendance, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Enfin, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut!
Restez pas là, y a rien.